Je suis comme dans un rêve. Je n'aurais jamais espéré rencontrer Céline Cousteau lorsqu'enfant, j'avais découpé dans un magazine une photo d'elle, petite fille de 9 ans, profitant des vacances scolaires pour rejoindre son grand-père sur la Calypso, en Amazonie. Combien de soirées avais-je passé à m'endormir en imaginant cet enfant de mon âge me proposer de passer ses vacances avec elle, sur la Calypso. Je rêvais qu'elle me fasse découvrir à mon tour le monde sous-marin qui me fascinait tant. Ce fantasme était d'autant plus fort que je me disais que ce n'était pas pour moi, que je n'étais pas parmi ces privilégiés. Venant d'une famille étrangère à la plongée sous-marine et à la nature en général, son monde me paraissait interdit. Et là, maintenant, c'est bien la jeune fille de la photo, devenue adulte, qui m'accueille dans son monde, en acceptant de partager avec moi les coulisses de la grande aventure Cousteau. Un rêve d'enfant qui se réalise.
C'est plus facile d'éprouver tout ça quand on vit des expériences que j'ai jamais eu l'occasion de vivre. Par exemple, plonger.
T'as jamais plongé ?
Non.
Et t'as l'intention de le faire ?
Ah, j'adorerais. Oh ! C'est quoi cette impression, cette sensation quand on plonge ?
C'est entrer dans un autre monde. Parce que justement, on est tellement conscient de sa respiration, on l'entend dans ses oreilles, la respiration, sa propre respiration.
Ouais.
C'est presque une méditation. On est entouré d'eau, on peut aller dans toutes les directions. C'est un monde nouveau, donc on doit quand même être éveillé. On a les yeux grands ouverts à ce qui se passe autour de nous. Et puis si on arrive justement à calmer la respiration, à se poser, on va dire, dans l'eau, je pense que là, il y a une vraie sensation de, quelque part, distance de la Terre tout en étant complètement connecté à soi-même.
Vous avez vu des animaux plus imposants ?
Oui, j'ai vu des animaux extraordinaires sous la mer, notamment des requins, des dauphins et des baleines.
Dans une cage à requins ou
Ah non.
Non ?
Non, non.
Vous n'avez pas eu peur ?
Non. Mais j'ai pas eu peur parce que j'étais avec des gens experts, avec des scientifiques qui comprennent le comportement de chaque espèce de requin, parce qu'ils ne sont pas tous pareils, c'est comme nous. Et on est entré avec respect dans leur maison. On va chez eux. Et puis on n'était pas là agressivement. Il faut rester calme. Et j'ai aidé les scientifiques à faire leurs recherches. Du coup, il fallait attraper les requins, les ramener au bateau.
Comment ça ?
Ça dépend de l'espèce. Ça dépend de l'espèce. Les requins de récif qui sont pas très grands, ce que faisait le scientifique, c'est il les attirait avec des appâts.
Ouais.
Et il avait une corde autour du bras qui leur passait, parce que quand ils sont en train de manger, ils font pas trop attention à ce qui se passe derrière. Il passait la corde autour de la queue. Et c'est comme un lasso. Une fois que tu tires la corde, hop, il me tendait la corde, le requin à l'envers, et moi, j'emmenais le requin au bateau.
Et il vous attrapait pas pour vous mordre, du coup, pour se
non,
défendre ?
Non, parce qu'une fois qu'il a la tête en bas, il va dans un état presque catatonique. Il est presque endormi.
Ah, d'accord.
Du coup, il bouge plus. Et une fois au bateau, je le tends aux scientifiques qui sont sur le bateau. Et en l'espace de 10 minutes, ils font tout ce qu'ils ont à faire avec le requin et on le relâche. On faisait une petite incision là sur le ventre. Oui. On insérait une petite balise pour... Moi, après, je faisais la couture.
Ouais.
et en fait, sur les récifs, on avait des récepteurs. Ouais. Ouais. Et on avait des récepteurs sur le récif. Et à chaque fois que le requin numéro 619 passait...
Oui.
On avait des informations par rapport à la température de son corps, s'il avait été à 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres, à quel moment de la journée. Et de par là, on comprend mieux le comportement de ces requins pour mieux protéger leur écosystème et pas juste l'espèce.
C'est quand même dingue, ça, d'avoir vécu, en fait, des moments avec des requins. C'est pas commun.
C'est pas commun.
Et est-ce que ça vous suit aussi tous les jours, ça ? Est-ce que ça vous transforme ?
Toutes mes expériences font partie de qui je suis.
Oui, c'est ça.
De comment je vois la vie.
Oui.
Et c'est pour ça que
j'encourage. Vous êtes sacrément original, alors.
On me l'a dit, oui.
Oui.
On me l'a dit. Mais je crois que ça ouvre le regard, justement. Et on ne voit pas les choses de la même manière. On ne voit pas les animaux de la même façon. On fait partie de cette nature. On n'est pas séparés d'elle.
Et tu parles aussi de ta rencontre avec les baleines dans ton livre, je me souviens.
Ça me fait penser à une expérience... Voilà, que j'oublierai jamais, que je ressentirai toujours. On était au large d'Hawaï, on faisait un documentaire, on avait sur place des scientifiques, bien sûr, et c'était, on suivait les baleines à bosse. Et à un moment, il y a une maman et son baleineau qui se sont détachés du groupe, j'étais avec la photographe, on était justement en PMT, en palme masque tuba, Et on a pris le petit Zodiac, on est parti loin devant elle. On s'est jeté à l'eau, le Zodiac est parti. Et on a attendu et espéré qu'elle vienne vers nous. Et en fait, elle est venue directement vers nous. Juste, on a eu le temps de bouger un petit peu hors son chemin. Et il y a eu ce moment où j'étais juste au niveau de sa tête et j'ai vu son œil tourner pour me regarder.
Tout d'un coup, on fait attention.
Et on s'est regardé dans les yeux et c'est dur d'expliquer, Jean-Baptiste, oui. Mais j'avais l'impression tout d'un coup d'exister.
Oui, exister ceux qui sont autour de nous.
Et c'est rare d'avoir cette sensation-là aussi forte. J'existais d'une façon tellement énorme et tellement simple, ça m'a coupé le souffle.
Quand on a vécu ça, comment on peut supporter le retour dans la vie de tous les jours? Il y a un temps pour atterrir?
Oui, le retour est parfois un peu difficile. On a l'impression que tous les bruits sont agressifs, on a l'impression que les gens parlent pour rien dire, on a l'impression que... Et en fait, c'est juste une autre réalité, en parallèle.
En pleine forêt de Rambouillet, on a un avion qui passe.
Oui, ben, les avions, on les prend. Oui. On en fait partie aussi, c'est la réalité d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut pas qu'on se dise que c'est en opposé. Que c'est un contraire. En fait, c'est une dualité. Et cette dualité-là, il faut qu'on essaye de mieux la gérer, de mieux faire l'équilibre quand on en a besoin. Moi, je sais que régulièrement, il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille respirer, il faut que je m'adosse contre un chêne. Et donc, je le fais.
Ce chêne sur lequel nous sommes adossés.
Voilà. C'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut pas se dire que c'est facile. C'est un travail à faire tous les jours. Moi, j'essaie tous les matins de faire une méditation d'une heure.
Une heure.
Bah, je me réveille à 6h30 du matin, je la fais dans mon lit, je ne me stresse pas à aller m'asseoir quelque part, ouais. Sur le coussin parfait, dans l'endroit parfait, dans la direction parfaite. Je m'assois dans mon lit et je médite pendant une heure. J'essaye de méditer, je m'en veux pas si je suis distraite, si je pense à mille choses. L'intention, elle est là. Et c'est avec la pratique que vient la fluidité.
Ouais, et que tu arrives à laisser passer toutes ces pensées qui t'envahissent.
Ouais.
Elles s'en vont et tu arrives à te concentrer.
Et pour commencer la journée, c'est assez extraordinaire. Je suis beaucoup plus présente pour moi-même, pour mon fils, pour mon travail, pour la vie. J'ai l'impression d'avoir déjà accompli une nécessité de me centrer pour commencer ma journée. Et après, j'ouvre les volets grands et j'ai la nature en face de moi. C'est vrai, tous les matins, même quand on sort du lit tout chaud et qu'il fait froid dehors, on ouvre le volet, c'est un moment de vie. Mais c'est un choix aussi, c'est un choix de vie, parce que ça ne vient pas sans sacrifice, entre guillemets. Les gens qui vivent dans les villes, vous avez accès à énormément de choses, la culture, les musées, l'art, ça bouge, vous avez les copains, les cafés, ça... Voilà, il y a une espèce de vie qui bouillonne dans tout ça, qui est agréable aussi. Ça me manque.
Et en même temps, les gens, ils ne se voient pas tant que ça à Paris. Hein. Moi, j'y habite, et je trouve qu'il y a quand même une grande solitude à Paris. C'est super individuel, c'est super individualiste. Chacun fait sa petite vie, rythmée par Netflix, par son portable et par les réseaux sociaux. Il va en falloir quand même du temps avant que les gens lèvent la tête de leur écran et puis décident de vivre en vrai, de voir leurs amis en vrai.
C'est une copine, un jour, qui m'a fait remarquer ça. On était à New York et j'avais 4 rendez-vous la même journée. Et elle enchaînait aussi les rendez-vous. Elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit « J'ai un créneau de 20 minutes entre 1h et 1h20. Est-ce qu'on peut te retrouver ?» Oui. J'ai pris le métro, j'ai foncé, on s'est retrouvés, on a bu un petit café ensemble, 20 minutes, on s'est pris dans les bras et on a continué la journée. Et c'est elle qui m'a fait remarquer, elle m'a dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui font l'effort justement pour se déplacer, pour voir ses amis.
Ah oui, c'est marrant. Et l'étreinte, c'est important?
Ah oui, moi je prends tous mes amis dans les bras.
Ah oui?
J'ai habitué mes amis ici en France, on fait une bise et après je les attrape et je les serre. C'est viscéral, j'en ai besoin. Et ça fait du bien.
Et en France, ils ne sont pas trop comme ça, hein, ouais, quand vous venez à Paris.
À Paris, encore moins.
Tout ce dont on parle là, ton grand-père, il en parlait déjà il y a 40 ans. Je me souviens d'une interview de lui, c'était en 79. Bah, tu vois, déjà à l'époque, il s'inquiétait de la tournure que nos modes de vie prenaient. Je crois que je l'ai dans mon portable, d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose?
Faites-moi écouter.
Alors, attends, je cherche. Alors, tu vois, je râle contre le portable, mais pour ça, il faut reconnaître que quand même, c'est chouette. Je peux me balader partout avec des sons que j'aime bien, qui me font du bien.
Notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs, pourquoi faire, pour augmenter de 5% la production. Rigolade, hein. Il faut maintenant savoir parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production du sol, on s'en fout.
Mais comment vous concevez la qualité de la vie ?
La qualité de la vie, c'est ça, c'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire.
La disponibilité.
Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Ah. Vous n'avez que des gueules fermées, les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur ? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les ondes. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça la seule, c'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir ? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, pare-choc contre pare-choc ? C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches, il faut qu'ils fassent leur comptabilité, il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel, il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout, qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont en notion tout petit, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque.
La sagesse nous conduit donc à réfléchir.
La sagesse nous conduit à simplifier.
Plutôt la lucidité.
À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités.
Qu'est-ce qu'il en penserait votre grand-père du monde d'aujourd'hui, là ?
Je pense qu'il serait triste de voir qu'on en est toujours à consommer plus et pas être plus proche de nous-mêmes, plus
ouais.
proche de la nature.
Ouais.
Qu'on n'a pas écouté, en fait. Ça fait 3 générations qu'on en parle.
Qu'on en parle, mais qu'on ne l'écoute pas.
On a l'impression qu'on continue comme avant.
Même avec le Covid, d'ailleurs. Hein ?
Même avec le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au quotidien, oui, qui ont changé leur vie. En tout cas, moi, je vois ça autour de moi. Ils se sont rapprochés de la nature, ils ont voulu sortir des villes. Ils ont voulu peut-être une vie plus calme, plus paisible. Après tout ça, Jean-Baptiste, je vous ai un peu éclairé ce que voulait dire François Sarano.
Je crois que oui, mais en fait, j'ai appris par cœur un extrait d'un livre qui s'appelle « L'œil émerveillé », justement. On parlait de l'émerveillement. Cet extrait, c'est ça. « Dès que j'eus cessé de bouger, les rumeurs nocturnes se firent entendre. Car en pleine nature, souvent, le mot silence désigne moins une absence de son qu'une disposition nouvelle de l'esprit qui s'élève à un paroxysme d'attention. » C'est ça dont vous me parliez tout à l'heure. C'est alors que le silence, justement, se met à chatoyer. Avec ce que vous m'avez dit, en fait, ça prend tout son sens.
Ben justement, c'est peut-être le moment parfait d'arrêter de discuter, de s'asseoir, et juste de s'imprégner du silence qui, en fait, n'est pas silencieux.
Je rentrais chez moi, encore émerveillé par cette rencontre, d'autant plus belle qu'elle était le fruit d'un hasard complet. Comme si une magie avait opéré pendant quelques heures et que je retournais à la vie réelle, brutale, sans poésie, avec ses factures, ses rendez-vous, ses papiers à remplir, ses courses frénétiques pour être toujours à l'heure. Je rentre chez moi, dans l'ambiance électrique d'une manifestation. Une manifestation car les gens n'en peuvent plus, ils ont peur, ils réclament une retraite décente. Je me dis qu'à travers ça, ils cherchent la sérénité, le temps et l'énergie pour vivre leurs rêves. Mais l'organisation de notre société est là pour leur voler ce temps, ce calme, cette énergie. Le rituel recommence. J'ouvre la porte, je jette les clés sur la table, j'enlève mon blouson, mes chaussures, et je retrouve la maison vide. Les jouets de mes petits loups traînent encore par terre, et la présence de ces jouets combinée à l'absence de mes enfants m'est insupportable. Moi qui cherchais le silence quelques heures avant, je me retrouve à ne plus le supporter. Le silence assourdissant me devient intolérable. J'allume mon PC pour lire mes mails.
Monsieur, nous constatons actuellement que votre mensualité de 50 euros ne correspond plus à votre consommation réelle. Afin de comprendre cet écart et d'éviter... Madame, monsieur, vous trouverez ci-joint votre facture périscolaire occasionnelle pour la période du... Achetez votre mobile. Vous avez très envie du mobile de vos rêves, mais votre budget n'est pas du même avis. Pas de souci, on a... Monsieur, quelqu'un tente d'accéder aux données de votre compte. Veuillez approuver. Comment réinitialiser le mot de passe de
monsieur,
votre
identifiant. Le tribunal vous convoque à l'audience du mardi 4 janvier à 13h30.
Hello, John. Oh, my goodness. I'm so emotional.
Je suis si ému d'avoir de tes nouvelles.
What an amazing email.
Quel incroyable mail je reçois là.
This has made my day.
Ça m'a fait ma journée.
Oh my God, of course I remember you.
Bien sûr que je me souviens de toi.
We were all the other day
l'autre jour encore, nous regardions des photos de nous tous. Dans la prairie.
Oh, it's so amazing that you found me.
C'est tellement extraordinaire
happy.
Que tu m'aies retrouvée. Je suis si contente.
So much love to you.
JB.
Quoi ? Ah mais.
Eh oui, je suis là. Mais tu rêves ou quoi là ?
Je t'avais pas vu rentrer. Pourquoi t'as réouvert la fenêtre là ? Du bruit, du bruit, du bruit.
T'en fais une drôle de tête en lisant tes mails.
Je viens de recevoir une réponse d'Angleterre.
D'Angleterre ?
Ouais. Je m'y attendais pas du tout. C'est le passé qui me rattrape. Bah attends, faut que j'aille vérifier un truc dans mes vieux cartons. Là.
Ouais, ceux qui sont au grenier là ?
Ouais.
Attends, bah attends, je viens avec toi. Ça monte hein ton truc ? Attends,
baisse ta tête.
Bah oui, je fais que ça. Je fais que ça. Attends, j'arrive. Attends, c'est vraiment étroit, hein.
Voilà. Garde ces cartons-là.
Ouais.
C'est ça.
Il n'y a que ça. Des cartons partout.
Ouais, mais dans ces cartons.
Magique.
Attends. Je cherche le bon carton.
Ben oui,
je sais que je l'avais mis quelque part. Hein.
Attends, c'est pas là. C'est pas ce carton-là, là. Non ?
Non.
Attends. Dis donc, il date de Mathusalem, tous tes cartons, là.
Attends, ça fait 30 ans qu'ils sont fermés.
Et tu cherches quelque chose de précis, là ?
Ouais, un album photo.
Et c'est quoi cette carte postale avec cette jolie ville en bord de mer, hein ? Penzance ?
Penzance, ouais, c'est en Cornouaille. Au sud de l'Angleterre.
Et ça, c'est Penzance, c'est ton adolescence, c'est ça ?
Une partie. La plus belle partie, même. J'ai passé l'été de mes 17 ans pour aller jouer de la batterie dans les pubs. Et justement, le mail que je viens de recevoir, ça vient de là-bas. Katie Max. Une gamine de 10 ans que j'ai retrouvée, au hasard, dans un documentaire sur Internet.
C'est hallucinant, ton histoire. 30 ans après, comme ça, elle sort de l'oubli.
Ouais, 30 ans. 30 ans, et elle se souvient de moi... comme si c'était hier. Tu sais, ça fait quelque temps que je me sens éteint. Tu vois, quand t'as un boulot qui te plaît pas, tu dois gérer un divorce, les dérives de notre époque, le stress, la peur. Et puis d'un seul coup, tu reçois un message du passé.
Ce mail, t'as rallumé, c'est ça ?
Mais oui. Bien sûr. Ce message, c'est comme si l'enfant que j'ai été me sermonnait. Enfin, avec beaucoup de tendresse, bien sûr. Mais c'est comme s'il me rappelait que j'étais capable de m'émerveiller, d'avoir de l'espoir, de continuer à croire, à rêver. Évidemment, à condition de retrouver tout ça en moi. Mais attends, d'ailleurs, retrouver... Se retrouver avant de se reconnecter et de s'engager, c'est exactement ce que disait François Sarano. Ah, bah le voilà l'album, juste à côté des cartes postales.
Oh la gueule, c'est vraiment toi là avec les cheveux longs.
Ouais, bon, j'avais des cheveux quoi.
T'as une vraie tête de babo si tu veux.
Laisse-moi regarder un peu. Regarde, ça c'est la rue principale de Penzance, avec la statue. Et les mouettes qui chient dessus. C'est bizarre, parce que cette rue, j'en rêve régulièrement la nuit. Tu vois ces petites ruelles qui descendent vers le bord de mer ? Avec les petits cottages. Oh merde, c'était le paradis quand même.
Waouh.
Tiens, ça, c'est la promenade. La promenade au bord de la mer de Cornouailles. C'est là où nage Katie tous les matins. Et cette photo, je l'avais oubliée. Tu vois, je jouais de la batterie, on jouait du rock tous les soirs, pratiquement. Ah, et puis attends, mon journal intime.
Ah oui, ça fait bien, effectivement, journal intime. Ouais.
Penzance, le 14 août 1992, 11h58. Je suis dans ma chambre et ce soir, Bigfoot jouera au Riviera Hotel.
Bigfoot ?
Le batteur, c'est Dale. C'est le meilleur. Demain, Dave Richards. Ouais, je me souviens maintenant. Dave Richards viendra me chercher parce que Fat Freddy's Cat et le groupe de Dave vont jouer dans un pub. Il y aura Dale aussi. C'est cool, je pourrai jouer 3 ou 4 chansons à la fin. Je me souviens de tout ça maintenant. Admiral Benbow, The Dolphin Tavern, The Longboat, Market Joe Street, Alan, Dave. Putain, j'avais oublié tous ces noms. Ces pubs.
Et c'est quoi toutes ces vieilles cassettes, là?
Où ça?
Bah là, 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 là. Oh, regarde, il y en a un paquet, là.
Bah, je me souviens plus. Bah tiens, attends, on va écouter, tu viens?
Ouais, allez. Oh putain, c'est étroit.
Fais gaffe à ta tête, là.
Oui, 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 ça y est, oui, bah oui, à l'aller, je me la suis pris, donc... Au retour, quand même pas faire la même connerie.
Tiens, t'as un vieux magnéto là, il est là.
D'accord.
Ah bah bien sûr, Michael Jackson. À chaque fois que j'écoute ça, je pense à la prairie qu'il y avait derrière la maison de Katie. C'est là que je l'écoutais, en boucle. Je m'allongeais sur l'herbe, au bord du ruisseau, et puis j'écoutais ça pendant des heures. Les parents de Katie pensaient que je m'ennuyais, mais en fait pas du tout. Je rêvais. Ben oui, à l'époque j'avais le temps de rêver. Je me préparais mentalement au bonheur que j'allais encore vivre le soir même.
Tu t'habillais le cœur.
C'est ça, t'as tout compris.
Ouais, en fait c'est ta Madeleine de Proust à toi.
Bah, ça serait même la Madeleine du Petit Prince.
Elle est un peu pourrie, là, ta cassette. Elle a dû prendre un peu l'humidité. Tiens, plutôt, mais plutôt celle-là, là. Ça va peut-être te rappeler autre chose.
Attends, là, il n'y a rien. Faut rembobiner. C'est bon.
Bon, ça te dit quelque chose? Toujours rien?
Attends un peu. Ah ouais, oui, oui, j'y suis. C'était un concert sur la plage de Penzance. Mes potes m'avaient laissé monter sur scène pour jouer un morceau avec eux.
Waouh!
Oui, je me souviens. Je jouais une de mes chansons préférées. J'avais le coucher de soleil sur la mer, en face de moi. Je me souvenais pas du tout que j'avais enregistré ce moment. Et...
Bon, attends, c'était la belle vie, quoi.
Tu sais quoi, j'ai encore du mal à croire que c'est moi qui ai vécu tout ça.
Bon, écoute, c'est pas si loin. T'as qu'à aller les voir, tes amis. Regarde, ta pote, elle t'a répondu. Allez, c'est quoi, deux heures d'avion, ça te ferait tellement de bien.
C'est tellement irréel, j'arrive pas encore à y croire.
Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, Céline Cousteau?
Quoi, qu'est-ce qu'elle m'a dit?
Elle t'a parlé du petit Jean-Baptiste que tu supportes pas de voir dans la glace.
Bah et alors?
Bah et alors, ça y est. Il s'est réveillé, le petit Jean-Baptiste. Elle avait raison, Céline Cousteau.
Ouais,
et ton médecin,
ouais.
Qui t'a dit de te faire plaisir, là, bah lui aussi. Une petite verrée, au pays de ton enfance, ça te dirait pas? Absolument que t'y retournes.
T'as raison. Tu sais quoi? J'appelle Eurostar.
2 heures d'avion, c'est vrai. Je n'avais jamais réalisé que cet endroit qui était resté dans ma mémoire d'enfant comme un lieu coupé du monde, en dehors du temps, n'était en fait qu'à quelques heures de chez moi. 2 heures d'avion pour aller au pays de mon enfance, comme m'a dit mon pote. Par ces mots, je comprends subitement que je dois y retourner.